partenariat officiel entre RCJ et Cannes Israël en français. RCJ, média du FSJU, et Cannes en français, la radio publique israélienne, partagent leurs programmes. Pour être encore plus près de l'actu en France et en Israël et en France, restez branchés. Téléchargez l'application mobile gratuite de RCJ pour écouter Cannes Israël en français, avec le concours du FSJU France-Israël.
Et pour finir ce tour du monde de la gastronomie juive, eh bien, nous allons partir en Afrique avec Félix Acher-Pérez pour découvrir la cuisine égyptienne et la cuisine éthiopienne. Bonsoir Félix.
Bonsoir, merci pour vos émissions, toujours intéressantes.
Merci Félix. Alors on commence par la cuisine éthiopienne,
éthiopienne,
je crois. Voilà.
Voilà, si vous le voulez, voilà. Alors, écoutez, c'est très intéressant. Alors d'abord, l'Éthiopie, les Juifs éthiopiens, il y a eu jusqu'à 200 000 Juifs en Éthiopie. Et puis, avec les famines et puis les campagnes de christianisation, ce nombre est tombé à 100 000. Depuis les années 60-70, Israël les a tous rapatriés. Et aujourd'hui, avec la démographie, on a à peu près 150 000 Juifs éthiopiens en Israël.
C'est à peu près l'équivalent de la communauté française en Israël.
Absolument. Il faut savoir que cette communauté a un impact beaucoup plus grand parce que les Israéliens, j'ai découvert, raffolent de cuisine éthiopienne, puisqu'il y a énormément de restaurants, de vrais restaurants de cuisine authentiquement éthiopienne dans le pays.
Alors, ils sont où?
Ça montre que cette cuisine attire les Israéliens. Alors, à Jérusalem, on a comme bon restaurant parmi d'autres. Hein, j'ai noté, relevé ceux qui avaient des très très bonnes notes et pour la plupart qui étaient cachères. On a Ethio Israël qui est cachère à Jérusalem et le El Shaddai. À Tel Aviv, on a le meilleur restaurant éthiopien du pays qui s'appelle le Lucie, 5 sur 5 TripAdvisor. Le Habash et le Balin Jera. Et puis, si vous passez à Rehovot, il y a un vrai restaurant éthiopien, on peut manger vraiment éthiopien, le Gojo. Voilà.
Le Gojo, à Rehovot, d'accord.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce que comporte cette cuisine? Est-ce qu'elle est très épicée? Quel type d'épices utilise-t-il?
Pour comprendre la cuisine, il faut comprendre la fête centrale en Éthiopie. Tout le monde a entendu parler du Sikh, cette grande fête, ce grand rassemblement de la fin novembre. Mais les gens savent, enfin même moi, je ne savais pas exactement ce que c'était jusqu'à cette émission dans le détail. Et donc, en deux mots, cette grande fête a une connotation religieuse très forte, puisque c'est à la fois un second Kippour et un second Shavuot. Alors le matin, les Éthiopiens font pénitence, ils font la vraie pénitence, la vraie tshuva, et donc c'est comme un Kippour, ils jeûnent, et ils sont pardonnés, et l'après-midi, du coup, ils peuvent recevoir, pour de vrai, les vraies tables de la loi, la vraie loi, ils font les vrais Shavuot, donc ils rompent le jeûne avec un très bon repas, et là, c'est la grande fête sociale. Et alors, pour rompre ce jeûne, ils ont un ragoût de viande avec des épices, alors on va voir lesquelles, des œufs et des pommes de terre. Voilà le grand repas de rupture du jeûne du Sikd.
Alors, ragoût de viande, pommes de terre, ça ressemble terriblement à tous les ragoûts. En quoi les épices sont-elles différentes?
Alors voilà, l'épice. L'épice, c'est une sorte de curry qui s'appelle le berbère. Alors aucun rapport avec l'expression berbère en Algérie. C'est le berbère, ou au Maroc plutôt, le berbère, c'est un mélange d'épices comme le curry, c'est du paprika piquant, du coriandre, de l'ail, du gingembre, du basilic, de la cardamome qui est mentholée anisée, et puis du fenugrec, c'est une sorte de anisée amère et légèrement doux, plus d'autres petites épices locales en proportion très minime. Alors ça, c'est une épice très variée, très, très riche, hein, le berbère.
On peut la trouver au marché, j'imagine, à Jérusalem
oui.
ou à Tel Aviv ou même
c'est compliqué
ailleurs.
À faire ça, il vaut mieux l'acheter toute prête. Oui, il y a tellement d'Éthiopiens qu'on la trouve sans aucun problème, au poids ou en sachet. Et voilà, c'est ce qu'ils mettent dans ce ragoût qui a un goût très particulier et très, très doux en fait, hein, très, très agréable. Et alors, moi je croyais naïvement que les plats éthiopiens, c'était les pains, vu qu'ils étaient très pauvres en Éthiopie, qu'ils avaient développé plein de pains et que c'était leur gastronomie. En réalité, il y a plus que ça. Mais déjà, les pains, c'est très important chez eux. Il y en a plusieurs. Alors, si vous voulez, on peut parler des pains.
Tout à fait.
Alors, d'abord, là-bas, en Éthiopie, ne poussait pas le blé. Donc, ils ont pris l'habitude de manger une céréale qui s'appelle le teff, qui pousse localement, qui est les plus petits grains au monde, dans les céréales qui poussent dans le monde entier, et qui a un avantage terrible, très très agréable. C'est pour ça qu'il y a une grosse clientèle en Israël et dans le monde entier pour le TEF, parce que c'est une céréale panifiable et qui est sans gluten. Donc c'est très intéressant de nos jours. Mmh. Voilà. Et donc il faisait du pain avec ça. Alors le pain principal, c'est l'injera. Alors l'injera, vous connaissez la laffa, c'est comme une pita, mais beaucoup plus fine. Et c'est comme une laffa, mais très spongieux au centre, comme une fausse pizza, vous voyez. Mmh. Un peu spongieux. Alors ça, c'est l'injera, c'est le pain de base. Alors quand ils le mangent avec des épices et de l'huile, ça s'appelle la catenia. Ils peuvent le manger aussi au petit déjeuner avec de l'épice berbère, de l'oignon et d'une sorte de houmous qui trempe dedans l'injera. Et ça s'appelle le shiro fit fit. Excusez les noms, c'est très exotique. Donc le shiro fit fit, on trempe dans le... Voilà. Ils ont le kitcha qui est un pain sans levain à la poêle. Et aussi très mince, très bon. Et le davo, c'est des sortes de bretzel légèrement sucrés qu'on mange le Shabbat matin et qu'on laisse sur la plaque toute la nuit. Et c'est, ça devient bien croquant. Et ça s'appelle le davo. C'est très, très bon. Voilà.
Très bien. Alors, il y a un plat spécifique pour, à part la fête du Sikh, donc le rompre le jeûne de cette fête si importante, le plat de Shabbat, il est...
Ah voilà, alors il y a le plat de Shabbat, tout à fait. Alors, ils ont le dorowat, le Shabbat. Le wat, c'est un ragoût, et le dorowat, c'est le plat de Shabbat. C'est une viande, alors que ce soit bœuf, poulet ou agneau, beaucoup de légumes, et des épices, notamment le berbère qui revient là, un œuf, et tout ça s'est mis dans un pot commun en Éthiopie. Maintenant, ici, ils ont pris des habitudes plus occidentales. C'était mis dans un pot commun. Et l'injera, vous savez, le pain dont on a parlé, est trempé dedans. On trempe l'injera et on prend un peu de viande, un peu de sauce, un peu de légumes. Mm-hmm. Et on mangeait ça. Aujourd'hui, il faut vous rassurer, quand on va dans un restaurant éthiopien, chacun est à sa table, on mange à l'occidental. Et dans la plupart des familles, comme les enfants vont à l'école avec leurs petits copains, donc ils mangent aussi à l'occidental. Hein,
c'est dommage de perdre les traditions.
Bah oui, c'est absolument. Il y a les desserts. Alors les desserts, c'est très bon. Ouais. Ils ont une sorte de dessert en forme de parasol, vous voyez, comme ça courbé avec des ailes de parasol. C'est un dessert de fête. C'est une sorte de pain avec de la cardamome en émantolée. Sucré, là, très sucré, avec du gingembre, des raisins, et on coupe des côtes comme ça, et on mange ça, c'est très bon. Et puis, il y a l'injera, alors de manières différentes en dessert. Il y en a un qui est en pudding, c'est comme du pain perdu, vous connaissez le pain
bien
perdu?
Bien sûr, bien sûr.
Voilà, qui est avec de l'œuf, de la vanille et du lait, mais avec l'injera, donc ça donne pas le goût du pain perdu habituel. Et puis un autre, c'est une sorte de tortilla plutôt mexicaine, c'est roulé, l'injera roulé, avec dedans soit des fruits, soit de la confiture, des fruits secs, ou de la confiture. Et donc, ça c'est l'injera sous deux formes de dessert, voilà. Et c'est des desserts éthiopiens. Je crois qu'on a fait à peu près les plats principaux. Alors, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'autres plats, mais on n'aura pas le temps.
Alors, on va maintenant découvrir et parler de la cuisine égyptienne. Alors, c'est aussi une communauté qui était très importante, mais qui a malheureusement disparu. Et en Israël, c'est une toute petite communauté, je crois.
Alors oui, effectivement, en Égypte, on a eu jusqu'à... Ils étaient là du temps des Romains et même avant. On a eu 35% de la ville d'Alexandrie vu à cause du commerce. Hein, elle était au cœur du commerce. 35% étaient juifs. Donc aujourd'hui, New York, c'est 20%. On voit comme les juifs sont visibles. Donc 35%. On a des... Donc ils étaient 80 000 avant 48. Deux grands juifs qui sont passés en Égypte. Il y a eu Maïmonide et le Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livra Tzadik Livracha. Donc des grands juifs. Et après 48, ils ont été chassés. Et aujourd'hui, on n'a plus que 60 000 juifs qui ont un grand-père égyptien en Israël, parce que beaucoup d'entre eux ont été en France ou en Amérique. Le français était la langue de tous les non-musulmans là-bas, c'était la langue courante, et donc beaucoup sont partis en France et beaucoup sont partis ailleurs. Mm-hmm. Donc en Israël, aujourd'hui, il n'y a que 60 000 juifs d'origine égyptienne, et la cuisine égyptienne n'a pas forcément beaucoup, on va voir quelques plats distincts, spécifique, mais pas beaucoup. Et donc, du coup, moi, j'ai trouvé en Israël qu'un seul restaurant typiquement égyptien. Il y en a beaucoup qui tiennent un ou deux plats égyptiens. Un seul typiquement égyptien, c'est le Julie au Chouk HaKarmel de Tel Aviv.
C'est ça, dans le Kerem HaTemanim. Mmh.
Exactement. C'est le seul restaurant typiquement égyptien. Par contre, notez bien, parce que le corona va pas durer longtemps, ou vous avez peut-être de la famille à New York. Si vous êtes à New York, à Manhattan, 74e rue, il y a un restaurant 100% égyptien, mais top de top, 5 sur 5, TripAdvisor, un vrai Égyptien qui s'appelle le André. Voilà, donc le André à New York, quand vous y retournez, si vous avez de la famille là-bas, 74e rue, en plein Manhattan.
Voilà. Vous nous faites rêver, là, nous qui ne pouvons plus voyager. Alors,
Alors, les épices, là, encore, vous allez me demander.
Les épices et les plats, bien sûr.
Alors, les épices, il y en a une que je n'ai pas encore faite. Donc, on a programmé avec ma femme d'acheter les ingrédients pour la faire. Alors, c'est 4 épices qu'on fait griller sur une poêle, dans une poêle, vous savez, on chauffe la poêle et ça grille, on ne met rien d'autre. Il y a du sésame, des cacahuètes, des graines de coriandre et des graines de cumin. Alors, tout ça, on trouve au chouk, les graines de coriandre et de cumin, cacahuètes et sésame partout. On met ça, on fait griller, on passe au moulin à café et ça s'appelle la doha. Alors, ça fait vraiment rêver parce que vous imaginez ce mélange d'épices, ça a l'air délicieux. Hein. Je n'ai pas goûté, j'avoue. Hein.
Et on fait quoi avec cette épice?
Comment?
On fait quoi avec cette épice?
Alors, on les met dans les ragoûts. Alors, par exemple, dans la mlouria, on en met. Alors, la mlouria, à ne pas confondre avec la mlouria tunisienne, très différent. D'abord, c'est des feuilles amères qui sont mises dans une soupe. Donc, ce n'est pas un plat épais comme en Tunisie, c'est une soupe avec des feuilles très amères. Donc, c'est légèrement amer. C'est mis avec de l'ail, de la coriandre, du poulet, mais de l'oignon et de la tomate. Alors là, vous voyez, la mlouria tunisienne, elle est noire, là c'est rouge avec la tomate. Il y a de l'oignon, il n'y a pas d'anis, il n'y a pas de menthe, donc c'est pas du tout le même goût, et c'est légèrement amer. Mais les Égyptiens et les juifs d'origine égyptienne en raffolent, les restaurants égyptiens en servent. Voilà. Et alors on met du doha. Et il y a un autre plat qu'on sert Shabbat, c'est une soupe, là, qui s'appelle Bata Bellamoun. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est Batata Belkamoun tunisien, pomme de terre au cumin avec de la viande. Mais pas du tout, ça n'a aucun rapport. C'est une homonymie, parce qu'à l'inverse, c'est pas un ragoût, c'est pas rouge, c'est au contraire une soupe qui est jaune, dorée, à cause du turmeric qu'on met dedans. Je ne sais pas, vous connaissez le turmeric?
Oui, ça ressemble au curcumin.
Absolument. C'est ça le seul avantage d'être doré, c'est tout. Et de l'oignon, on met du céleri, de l'ail, et surtout c'est acide avec du jus de citron, très acidulé. Et les Égyptiens servent ça à Shabbat, voilà.
Très bien. Et les fèves, la soupe de foule qu'on mange en Égypte?
Alors, ils ont quelque chose qui est très, très original, qui s'appelle le koshari. Alors, on va bientôt manger avant Tisha B'Av des khlalem en Tunisie, et même des gens qui ont des amis tunisiens vont manger ça. C'est des soupes, c'est des pâtes, des petites pâtes avec des pois chiches et des lentilles. Donc, il y a 3 céréales. Et ben, les Égyptiens nous battent parce qu'eux, il y a 4 céréales dans le koshari. Il y a les pâtes, les lentilles et les pois chiches, mais il y a en plus le riz. Et c'est encore plus, ça fait encore plus rêver que les khlalem parce qu'il y a des oignons frits, du cumin, du gingembre, de la cannelle et de la sauce tomate. Moi qui raffole de tomates, voilà. Et c'est très bon. Il y a toujours du doha dedans. Et voilà, ça c'est la koshari. Et ils ont une autre utilisation des fèves. C'est un petit déjeuner qui s'appelle le moudamas. Alors c'est un œuf frit avec des fèves, des lentilles rouges. Là encore deux céréales, de l'oignon, de la tomate. Et c'est mangé avec de la trina. Et le moudamas. Alors, vous voyez, on utilise souvent des céréales pauvres, mais très protéiques, c'est-à-dire bon marché et très protéiques. Tout ça parce que pendant longtemps, il y a pu avoir des Égyptiens pauvres. Il y avait des Égyptiens très aisés, hein, chez les Juifs et chez les non-Juifs d'ailleurs, mais chez les Juifs aussi, il y avait des Égyptiens pauvres. Et dans beaucoup de pays, on a vu ça, des protéines, même chez les non-Juifs, des céréales bon marché, très protéinées, ou des graines très protéinées, bon marché. Alors là, on a les lentilles, les fèvettes, voilà, donc on a ces exemples-là.
Alors, Félix, on a fait un très très beau périple grâce à vous à travers différents continents, différents pays, pour toujours parler de la cuisine juive en particulier. On a l'impression, au bout du compte, qu'il y a un fil rouge, un fil conducteur entre toutes ces coutumes culinaires, comme si eh bien, les Juifs, dans leur transport et dans leur voyage, amenaient avec eux dans leur valise à chaque fois leur recette. C'est toujours un plat de base avec viande, céréales, pommes de terre, une épice. Les épices se ressemblent plus ou moins, hein. On va dire qu'à une ou deux variantes près, on retombe toujours sur la même base. Est-ce que vous expliquez ça comme ça, c'est-à-dire que l'exil des Juifs et les pérégrinations des Juifs...
On va être aidé dans la prochaine discussion, on va être aidé par la grille des anthropologues, puisque vous m'avez présenté comme un anthropologue. Il y a une grille qui est commune à toutes les civilisations qu'on va retrouver chez les Juifs, qui va nous permettre de décoder un peu tout ça, tous ces comportements. Donc on va décoder ces comportements, et on va voir que chez les Juifs, à cause de leur transhumance, comme vous l'avez expliqué, c'est encore plus fort, et à cause de la loi juive aussi. Il faut savoir que les Juifs ont mangé selon leur loi juive pendant 1800 ans. Donc à cause de cette loi juive qui était prégnante, omniprésente, ces traits se sont renforcés encore plus, et on va voir que les traits des ethnographes, des anthropologues, sont encore plus vivants chez les Juifs, dans la cuisine juive, que dans ces rites de table. Finalement, ce qu'on appelle les rites de table sont encore plus vivants. Et donc ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine émission, c'est très intéressant de comprendre.
Alors voilà, on terminera cette série vraiment passionnante avec ce sujet particulier. On vous retrouve la semaine prochaine, Félix Acher-Pérez. Merci beaucoup pour toutes ces découvertes.
Vous venez d'écouter une émission de Can Israël dans le cadre du partenariat entre la radio Can Israël, la radio publique d'État israélienne et RCJ. Vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant notre application mobile.